Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Oui, enfin, c'est Roten sans flamme, mais sans Roten. Il n'y a que Jean-Louis Tour. On aurait pu appeler ça Tour sans flamme, mais ça fait bâtiment en feu.
Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
Oui, il a raison, Julien Cazard. Roten sans flamme, c'est bien mieux. Et effectivement, Roten sans flamme est là depuis le début de la semaine. C'est comme ça. Alors, vous écoutez peut-être pour la première fois, vous vous demandez ce qui se passe. Où est Jérôme Roten? Alors que c'est Roten sans flamme, bah, il est toujours en vacances. Et il sera de retour le 22 août prochain. Il se repose. Et en attendant, il a laissé les clés au reste de la Dream Team qui l'accompagne toute la saison. Et ce soir, Lionel Charbonnier est avec nous. Salut, Lio.
Salut, Jean-Louis. Salut à tous.
Ça va?
Bah, nickel. Impeccable. Sous la chaleur.
Très bien. Jérôme, t'as donné quelques consignes?
Même pas.
Avoir le boulard.
Même pas.
Ça, non.
Ça, c'est compliqué. J'aurais plus de mal pour y arriver que lui.
Bon, en attendant, t'es là jusqu'à 20h pour évidemment lancer la deuxième journée de Ligue 1. Ce sera à 19h. On sera avec nos correspondants pour le retour du multiplex. Ils seront quatre à nous détailler les enjeux de ce week-end de Ligue 1. Avec notamment une info à noter d'ores et déjà, Lorient-Lyon est reporté à une date ultérieure. On fera un débat également autour de Bamba Dieng avec des infos mercato à Marseille. Et puis un invité en deuxième heure, Brendan Chardonnay, notre ami sur RMC, le capitaine de Brest, sera avec nous donc à 19h30. Il y aura également le quiz à 19h45 avec des cadeaux à gagner. Et puis la Coupe du Monde. La Coupe du Monde débute dans 100 jours exactement. Alors cette édition au Qatar va être accusée d'être trop différente des précédentes. Mais et non. Ce sur plusieurs aspects, Lionel. Ce sera à 18h30. C'est le rendez-vous de Roten sans flamme à 18h30. Faites entrer l'accusé. Ce sera tout à l'heure. Et puis on est également avec la natation à Rome pour les championnats d'Europe. Comme hier, on fera des allers-retours avec Julien Richard en cas de médaille française. Mais tout de suite, le PSG ne s'arrête pas.
Acheter tout et n'importe quoi, ce trouble a un nom, l'ognomanie.
Et peut-être que dans le matin, ça, on aura un ou deux ou trois ou quatre ou cinq joueurs de plus.
C'est la journée idéale pour les adeptes d'achats compulsifs.
Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau.
Allez, on en profite, c'est les derniers.
Sur cela, oui, on souhaite l'arrivée d'un autre attaquant.
Pour ces acheteurs compulsifs, pas de limite de dépenses.
Pour la frappe de Rashford.
Il faut que ça soit une vraie valeur ajoutée.
Juste une envie, celle de dépenser toujours plus.
Alors, le PSG tient à son attaquant supplémentaire. Et les noms donc qui sortent depuis hier soir sont assez clinquants. Marcus Rashford de Manchester United. On va vous faire son portrait avec Salim Bongali qui est avec nous, spécialiste de la Première Ligue sur RMC Sport. Salut Salim.
Salut Jean-Louis, bonjour à toutes et à tous.
Raphaël Leao également, le meilleur joueur de Serie A, l'attaquant du Milan. Johan Crochet sera avec nous tout à l'heure, notre spécialiste du foot italien, pour nous le présenter. Comprenez-vous que le PSG soit sur ses pistes précises? 32-16, appelez-nous pour en débattre. Avant d'avoir ton avis Lionel, le point sur les infos sur ces deux cas avec Arthur Perrault qui suit le PSG au quotidien. Salut Arthur.
Salut messieurs, bonsoir à tous.
Alors on en est où?
D'abord, concernant Marcus Rashford, ce qu'on peut dire, c'est que la piste du joueur de 24 ans est activée en coulisses depuis quelques jours. On est au tout début des discussions pour l'attaquant qui s'entend très bien avec Kylian Mbappé. L'entourage de l'anglais aurait été approché par les représentants de Paris, alors que le joueur est lié à Manchester United jusqu'en 2023. Le club anglais ne serait d'ailleurs pas disposé à le laisser partir donc pour ce mercato estival. Mais Paris continue de creuser d'autres pistes, et notamment celle qui mène à Rafael Leao, l'international portugais est particulièrement apprécié par Luis Campos, qui le suit de longue date avant même sa prise de fonction du côté du Paris Saint-Germain. Le dirigeant n'a jamais coupé les ponts avec Leao depuis la découverte de ce dernier, mais racheter ses deux dernières années de contrat avec le Milan AC, ça peut avoir un coût. On estime ce transfert à 70 millions d'euros. La clause fixée par le club italien s'élève à 150 millions d'euros. L'opération donc financière s'avère compliquée, mais attention, parce que on parle beaucoup du départ d'Abdou Diallo vers ce Milan AC. Le joueur du Paris Saint-Germain, l'autre joueur du PSG, pourrait donc être intégré dans la transaction.
Merci Arthur pour toutes ces infos. Alors avant qu'on rentre dans le détail des dernières saisons de ces deux joueurs, Lionel, première impression, on te dit Rashford, Leao au PSG, est-ce que tu comprends la démarche?
Bah écoute, je pense que ce sont deux opportunités. Donc pourquoi pas la première avec Rashford, ça serait plus une opportunité financière. Alors je suis vraiment mal placé parce que il s'agirait de relancer la carrière de Rashford et moi je suis issu d'un club qui a toujours su relancer des grands joueurs. À Auxerre avec Enzo Schifo, Laurent Blanc aussi qui était pas bien, qui s'est refait la cerise et qui est reparti, qui a vraiment bien rebondi. Donc oui, pourquoi pas pour Rashford, mais faut que ce soit vraiment une opportunité financière. Absolument pas. Il faut absolument pas que ça devienne une priorité. Pour moi, les priorités restent, ça n'engage que moi, le milieu de terrain et l'arrière axial. Ouais. Donc voilà, pour Rashford, ça serait l'opportunité financière. Pour Léao, je pense que ça serait une opportunité avec l'échange de Diallo. Et donc un coup pour l'avoir beaucoup moins cher. Si tu me demandes lequel des deux je prendrais, personnellement je prendrais Léao.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. 32-16, un supporter du PSG, venez nous dire ce que vous en pensez, évidemment. Et alors tu parlais des autres priorités de recrutement, c'est toujours d'actualité, on en parlera avec Arthur dans un instant, mais il cherche toujours un milieu, un défenseur. Alors Rashford, dans le détail, Salim, déjà, c'est pas une saison dernière reluisante.
Ah non, c'est le moins que l'on puisse dire. C'était même catastrophique, effectivement. Lorsqu'on observe toute compétition confondue, Marcus Rashford la saison dernière, 31 apparitions. En 31 apparitions, 5 buts et 2 passes décisives. Et encore, quand je dis 31 apparitions, j'insiste sur le mot apparition, 3 matchs en intégralité. Ah oui. Rendez-vous compte, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à finir ses matchs, qui régulièrement ne les démarre plus. Cette saison dernière, oui, a été cata, surtout quand on compare aux deux saisons d'avant, où là, en revanche, il a été un joueur essentiel de United. Par exemple, la saison 2020-2021, en 57 matchs, il a été impliqué sur 36 buts, 21 buts, 15 passes décisives. Donc là, oui, il était un homme important, même la saison d'avant également, 44 matchs, 22 buts, 12 passes décisives. En fait, son moment charnière, son moment tournant, ça a été l'Euro. Et juste avant l'Euro, rappelez-vous, il est blessé à l'épaule, en l'occurrence, sauf que il veut tout faire pour jouer l'Euro en question, donc il fait en sorte de reporter cette potentielle opération à l'après-Euro. Donc il joue l'Euro en n'étant pas à 100% et malheureusement il ne réalise pas de très très bons matchs.
Il rate surtout.
Absolument, il rate même un tir au but lors de la finale. D'ailleurs, il fait partie de ces trois joueurs avec Saka, avec Sancho et donc Rashford d'avoir raté un tir au but et c'est le seul à ne pas avoir retrouvé les couleurs de l'équipe d'Angleterre. Les deux autres ont été rappelés, pas lui, parce que justement la saison dernière a été catastrophique et en plus a mal démarré avec justement cette opération à l'épaule. 3 mois d'absence, il n'a jamais pu revenir sur un terrain, en tout cas revenir comme il le fallait. Ce week-end, il a joué son premier match à 90 minutes avec United. Et ça a été un match totalement raté par Marcus Rashford. Donc oui, si le PSG veut faire du social, pas de problème. Mais sinon, il y a un vrai souci sportivement parlant.
Ouais, mais après, attends, Lionel...
Là, c'est un souci mental plutôt, voilà, ce que tu viens de nous décrire.
Des joueurs capables de... t'en as connu des joueurs que tu peux relancer, t'en as parlé de tes
exemples. Bien évidemment.
Il n'est pas fini non plus.
Non.
Tu peux rater un an, tu peux décrocher un peu mentalement, mais te relancer.
Exactement. Surtout si tu changes d'air. Et Dieu sait si l'air est différent... en France par rapport à l'Angleterre.
Oui, parce qu'il n'était pas forcément bien entouré non plus.
Exactement. Il a eu quand même des coachs qui n'étaient pas aussi faciles que ça pour te remonter le moral. Quand t'as du Van Gaal, que tu connais sa méthode d'entraînement, ou Mourinho, ce sont des joueurs qui peuvent, des entraîneurs qui ont eu des effectifs avec des joueurs qui avaient un mental de folie et qui ont fini parfois par même se perdre avec le management de ces deux coachs. Donc ça, c'est pas, ils sont pas réputés pour remettre aussi un mec en... Bon, il n'a pas eu que ces deux-là, mais ils en ont fait partie. Après, il y a la presse aussi derrière. La presse anglaise, je peux te dire, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose. Et en plus, comme il a raté son péno, on lui a jamais fait de cadeau. On n'a jamais essayé de le remettre... de mettre tout en œuvre pour l'avoir, pour le remettre bien comme il faut. Alors que c'était une pépite. Moi, je pense que le talent... Quand tu l'as, tu l'as. Là, je pense que c'est un problème mental. Alors, est-ce qu'au PSG, il y a des possibilités pour se remettre ? Oui, pourquoi pas. Mais il n'aura pas du temps de jeu. Dans ces joueurs, pour ces joueurs-là, il faut du temps de jeu, il faut tout ça. Donc, c'est quand même assez compliqué. Mais il n'est pas foutu, il faut arrêter, quoi.
Lionel, on va continuer sur Rashford dans un instant. Salim veut compléter. Grégory Patient au 32-16. On parlera de Léao également dans une seconde. Mes priorités au direct, ce sont les championnats d'Europe de natation à Rome. Et il y a une finale. Et peut-être un titre français à venir. Julien Richard nous rejoint. Salut Julien.
Salut les gars, effectivement la piscine de Rome, magnifique en plein air, pleine, énorme ambiance pour un Italien qui est en finale, Thomas Ceccone, ligne de numéro 3, mais nous on aura les yeux évidemment sur le français Maxime Grousset, ligne de numéro 5. C'est la finale du 50 mètres papillon, il replongera dans 26 minutes précisément en demi-finale du 100 mètres nage libre. Il a un gros programme et il est prétendant au titre européen sur ce 50 mètres, mais il y a une grosse densité avec notamment sur les lignes extérieures Sébastien Szabo, le Hongrois, ou encore Govorov, l'Ukrainien, recordman du monde de ce 50 mètres papillon. Il est dans la même ligne que ses adversaires hein, pour l'instant, Maxime Grousset, même si Nils Costanieux est plutôt devant. C'est ultra serré, ça va être dur pour le titre, ça va se jouer à rien du tout. La deuxième place, médaille d'argent pour Maxime Grousset, 22 secondes 97 centièmes, et vous entendez la foule acclamer le vainqueur en 22 secondes 89 centièmes. Il est italien, Thomas Ceccone, c'est un phénomène, champion du monde et recordman du monde du 100 mètres d'eau, mais là champion d'Europe du 50 mètres papillon cette fois devant son public, et il va faire le show avec ses cheveux longs. Il a enlevé le bonnet, Thomas Ceccone. C'est une deuxième médaille pour l'équipe de France, elle est en argent, 22 secondes 97, c'est un peu moins rapide qu'en demi-finale, 7 centièmes moins rapide qu'en demi-finale pour Maxime Grousset, et il est à seulement 8 centièmes hein, de la médaille d'or, mais c'était extrêmement serré. Un peu décevant, c'est une finale, donc franchement déjà qu'il soit sur le podium, c'est déjà pas mal. C'est pas sa spécialité hein, Maxime Grousset, le 50 mètres papillon, lui c'est le 50 nage libre et le 100 mètres nage libre. On va dire que c'est une épreuve bonus et que son objectif c'était pas forcément l'or, mais en tout cas de monter sur le podium. La petite déception c'est par rapport au chrono où il est allé un peu moins vite qu'en demi-finale, mais c'est souvent le cas en finale, on arrive souvent à nager plus vite, plus relâché en demi-finale. Et en plus là derrière il a le 100 mètres nage libre, gros morceau à venir dans 26 minutes où on le retrouvera sur les demi-finale, donc qui gère, mais c'est déjà une belle médaille.
On
la deuxième médaille pour l'équipe de France de natation dans ces jours.
On revient tout à l'heure pour Charlotte
Exactement,
Bonnet.
Exactement, c'est la prochaine course.
Et ben ça marche. À tout de suite donc, Julien Richard, au championnat d'Europe de natation à Rome. Salim, tu voulais ajouter sur Rashford et Manchester United?
On parlait de relance de joueurs et c'est vrai que le changement de cadre peut aider, mais là je me dis une chose, est-ce qu'on peut le relancer en lui disant clairement tu vas être un remplaçant?
C'est ce que je disais.
On t'achète, mais en étant un remplaçant, alors qu'à United tu pouvais, là il a démarré titulaire et il espère peut-être être titulaire. D'ailleurs je le rappelle, Eric Ten Hag a parlé aujourd'hui en conférence de presse en étant extrêmement clair: Rashford est très important, vous l'avez vu dès mon arrivée, je suis vraiment content de lui et je ne veux vraiment pas le perdre. Rashford fait partie de nos plans, il restera à Manchester United. Je prolonge le propos de Eric Ten Hag, selon plusieurs gros journalistes locaux, oui, United veut le garder, sauf très gros sauf, et là évidemment l'argent fera.
Voyons ce qu'en pense Grégory qui nous rejoint, supporter du PSG et qui a fait le 32-16. Salut Grégory. Ah, attends, je pense qu'il faut faire une petite manip pour que Greg arrive à l'antenne. Salut Grégory.
Salut tout le monde.
Voilà, c'est bon.
Salut Grégory.
Alors, ça te plaît les noms que tu entends? Tu comprends, tu vois une cohérence dans les choix du PSG?
Honnêtement, j'avais été un petit peu rassuré, je vais dire, il y a quelques temps, effectivement, quand Christophe Galtier est arrivé, et puis voir un petit peu son discours, la façon dont les choses se passent, et puis les derniers résultats, effectivement, c'était assez intéressant. Il y a juste une chose que je comprends pas, c'est qu'effectivement, Paris, là, on est plutôt sur un recrutement d'attaquants, mais c'est vrai que moi, je me serais quand même beaucoup plutôt penché sur la défense, et notamment la défense centrale. C'est ce qui me fait le plus peur, en fait.
Alors, je pense qu'ils y sont. Moi, je pense que c'est pratiquement fait.
Il y a toujours, depuis une semaine, trois secteurs du jeu qui sont visés. Un défenseur, un milieu de terrain et donc un attaquant. Attention, parce que l'attaquant, c'est aussi conditionné à des départs, notamment celui de Mauro Icardi. Mais pour le défenseur, pour Skriniar, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a également eu une conférence de presse de Inzaghi en fin de journée qui a indiqué que le mercato de l'Inter, pour lui, était fermé, que voilà, il avait seulement besoin d'un milieu de terrain, mais que visiblement, la piste était refermée. On n'a pas encore de confirmation du fait que c'est définitivement oublié. Il faut rester prudent aussi. Ça peut être un jeu dans les négociations.
Voilà, c'est ça. On va dire Rashford, effectivement, c'est un très bon joueur, il n'y a rien à dire. Par contre, je suis d'accord avec effectivement Salim et puis Lionel, c'est que pour un joueur, pour le relancer, pour lui redonner confiance, venir dans une équipe où le trio d'attaque, il y a quand même Messi, Mbappé, Neymar, en se disant que je vais jouer la Coupe de France derrière, c'est peut-être pas le top. Maintenant, honnêtement, effectivement, moi, je pense qu'on aurait quand même besoin plus en priorité quand même d'un défenseur central. Puisque honnêtement, je vous dis que Kimpembe, Ramos, Marquinhos, il y a rien à dire, hein, c'est ça a de la gueule, hein, c'est une des meilleures défenses d'Europe, il y a pas de souci. Par contre, derrière, ça me fait peur. Moi derrière, ça me fait peur. Une blessure, une suspension, ça fait peur. Les latéraux, c'est pareil, c'est limite. Voilà. Après, en milieu aussi. Pas trop compris Kalimuendo non plus. Parce que Kalimuendo, on l'a repris de Lens et on le revend derrière. Je ne comprends pas.
25 millions d'euros.
Oui, parce qu'il demandait un temps de jeu important aussi à Arnaud Kalimuendo.
Après, Kalimuendo aurait pu peut-être, je veux dire, entre Messi, Neymar,
tu crois qu'ils vont laisser beaucoup de temps de jeu, tout cela?
La volonté du board parisien, et ça c'est important, c'est que le profil recherché aujourd'hui pour ce poste, c'est un attaquant polyvalent, physique, et qui peut aussi être à l'aise dans le jeu aérien, ce que n'a pas aujourd'hui le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que le profil de Kalimuendo se rapprochait un peu de ce que le Paris Saint-Germain avait.
Alors, c'est Arthur, Grégory, merci d'être venu au 32-16. À très bientôt pour débattre du PSG tranquillement ensemble sur RMC. Salim, merci beaucoup également.
Au plaisir.
On fait le point sur Léao avec Yoann Crochet dans un instant, mais on retourne à Rome. Les championnats d'Europe de natation, la finale dames du 100 mètres, Julien Richard.
Avec Charlotte Bonnet à la bagarre pour le titre européen avec Marit Stoornberger, la néerlandaise qui est en train de passer devant. On est dans les derniers 50 mètres, ça coince un petit peu pour Charlotte qui est en deuxième position. Elle s'envole, la néerlandaise, dans cette finale. Il reste 15 mètres à parcourir. Attention au retour également de l'italienne Chiara Tarantino. Allez, les derniers mètres pour monter sur le podium pour Charlotte Bonnet qui va toucher en deuxième position. Nouvelle médaille d'argent pour l'équipe de France. Victoire de Stoornberger, la néerlandaise. Podium pour Charlotte Bonnet qui va faire énormément de bien. 53 secondes, 62 centièmes. Elle n'avait plus nagé à ce niveau de performance depuis 2019 et elle n'était plus montée.
Ah, je pense qu'elle n'était plus montée sur un podium international depuis longtemps. C'est ce qu'il s'apprêtait à dire. Enfin, j'imagine. Hein. Donc voilà, Julien Richard, alors tous les jours, il nous fait le coup. On espère le retrouver en qualité normale. En tout cas, on retient donc deuxième médaille d'argent pour le clan français. Après Maxime Grousset sur le 50 mètres papillon, Charlotte Bonnet donc sur le 100 mètres nage libre. Dans une seconde, le profil de Léao. Est-ce qu'il conviendrait au PSG? On vous dit tout dans une seconde dans Rotten sans flamme avec Lionel Charbonnier. À tout de suite.
RMC 18h20h, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Oui, enfin, c'est Roten sans flamme, mais sans Roten. Il n'y a que Jean-Louis Tour. On aurait pu appeler ça Tour sans flamme, mais ça fait bâtiment en feu.
18h18, c'est Roten
sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h18, c'est Roten sans flamme, donc. Avec Lionel Charbonnier ce soir jusqu'à 20h à 18h30, puisqu'on est en plein J-100 de la Coupe du Monde. Le mondial au Qatar sera accusé d'être une édition beaucoup trop différente des précédentes. Le débat tout à l'heure, donc à 18h30. On est toujours avec Arthur Perrault qui suit le PSG au quotidien. On s'interroge sur les nouvelles pistes que l'on a découvert hier. On a parlé de Rashford avec Salim Bongali. On place à Léao, l'autre priorité des Parisiens, sans doute même au-dessus de Marcus Rashford. Et on va en parler avec Yoann Crochet, notre spécialiste du foot italien. Salut Yoann.
Salut Jean-Louis, salut Lionel, salut Arthur, salut. Bonjour à toutes et à tous.
Bon, alors Léao, pour le coup, on l'a en tête sa saison dernière parce que il a brillé. Meilleur joueur de Serie A, hein, c'est ça?
Ouais, exactement. Et lui MVP à la fin de la saison de Serie A. Et une saison où il a plus que brillé, ça c'est clair.
Alors, dans le profil, est-ce que t'as pas l'impression que ça fait un peu doublon avec Mbappé?
Bah, c'est clair que Léao, c'est un joueur de côté, c'est un joueur, un ailier qui joue sur le côté gauche, donc il y a pas mal de similitudes éventuellement dans les zones de sur le terrain que peuvent utiliser Mbappé et Léao, à moins que Mbappé soit replacé ailleurs, ça j'en sais strictement rien, mais Léao, c'est évidemment un joueur qui...
Excuse-moi de te couper, mais quand il l'a amené à Lille, Campos disait de lui que c'était le Mbappé portugais, hein, le futur Mbappé en tout cas. Donc voilà.
Mais c'est un joueur qui, dans les équipes de jeunes du Sporting, donc je parle de Léao, jouait également numéro 10. Donc il est capable de faire beaucoup de choses. Il a même dépanné parfois en tant que numéro 9 à Milan quand il y a eu des blessures de Rebic, de Giroud, d'Ibrahimovic, etc. Donc c'est un joueur qui est capable de faire beaucoup de choses. Après, c'est vrai que là où il est utilisé depuis qu'il est à Milan, c'est sur le côté gauche. Là où il est le plus performant, c'est à gauche. Là où il casse la baraque, entre guillemets, c'est à gauche. Donc évidemment que si un club vient le chercher, on imagine assez aisément que ça serait pour jouer dans la position dans laquelle il a définitivement explosé sur la scène européenne.
Pourquoi c'est ta préférence, Léao, Lionel?
Bah pour plein de raisons, c'est-à-dire que lui arrive d'une saison, il n'est pas comme Rashford, c'est qu'il est complètement à l'opposé, c'est-à-dire que lui ne fait que progresser au Milan AC. Là il a fait une saison extraordinaire. Alors juste petit bémol, après je préfère parce que alors il y a deux bémols. Il est souvent blessé de décembre à février. Ça fait 3 ans de suite où il a des problèmes avec une cuisse, des problèmes, il est souvent claqué. Ça c'est un bémol.
Ensuite, le deuxième bémol, ça serait que c'est un joueur qui, à Milan, n'a pas une réputation, il a pas une hygiène de vie extraordinaire. Ah. Donc à Paris, il pourrait partir en live. C'est mon deuxième bémol. Maintenant, bien encadré dans le vestiaire, dans un très bon vestiaire parisien, je dis ouais parce que c'est un mec. Bah tu le disais aussi. T'imagines un adversaire qui vient de se choper Mbappé, qui était sur le côté gauche par exemple. Mbappé, tu le recadres dans l'axe. Admettons si tu veux pas le faire sortir ou si tu veux le faire respirer et tu te prends Léao juste derrière. Donc ouais. c'est le mec. Je peux te dire, mais il va avoir mal à la tête.
Le bémol supplémentaire aussi, on ne sait pas comment il le vivrait, mais c'est le temps de jeu. Parce que cet attaquant qui va arriver, je ne vois pas bien quel temps de jeu il va avoir, tu vois.
Enfin,
je ne sais pas, Léao. Enfin, ce serait bizarre comme choix quand même, Léao. Il est en pleine progression, tu l'as dit. C'est le leader du championnat, le patron de l'équipe qui a été championne d'Italie. Et il va se retrouver à jouer deuxième, troisième rôle au PSG. Je sais pas, est-ce qu'il va pas avoir un problème d'ego aussi peut-être dans le vestiaire.
Peut-être pas troisième, mais deuxième rôle peut sûrement. Tout dépend aussi parce que bon, pour l'instant, on l'a pas encore vu, mais il est possible aussi que Neymar soit sur le côté gauche, comme il l'a fait, vienne sur le côté gauche et que ce soit un mec qui puisse t'apporter une palette supplémentaire. Avec Neymar. Neymar, on est sûr de rien. On est sûr que quand il est là et qu'il est dans de bonnes conditions comme il est actuellement, il est extraordinaire. Maintenant, on sait pas si ça va durer. Ça, on est sûr que ça. Voilà, on est sûr d'être dans le doute.
Et Johan, en plus du côté sportif, ça devrait coûter très cher, une opération comme Léao.
Alors, ça va coûter très cher. Alors déjà, Milan n'est pas vendeur. C'est quand même le point le.
Oui, mais si tu mets Diallo dedans.
Si je mets Diallo.
Oui, parce que ce qu'Arthur nous disait, c'est que Diallo pourrait être incorporé à la transaction.
Parce que Milan fait vraiment les yeux doux à Diallo.
Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Diallo, il ne va pas jouer au poste de Léao. Et Léao, remplacer Léao au 12 août, les amis, c'est pas simple. Hein. Ouais. Juste pour préciser, Léao, c'est l'option offensive numéro 1 du Milan depuis deux saisons. C'est-à-dire que tout le jeu offensif quasiment passe par lui. C'est un joueur qui est indispensable à Milan. Et deuxième chose, s'ils veulent pas le vendre, ils ont la capacité de refuser Milan. Et troisième chose, la clause libératoire de Raphaël Léao, elle a 150 millions d'euros.
Ah, donc voilà, c'est bon. Voilà. Donc c'est fait. C'est facile du coup.
Non, bah et quatrième chose, j'en rajoute même une. Bon courage pour négocier le contrat de Léao si jamais ça se fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des discussions actuellement pour prolonger son contrat à Milan qui expire en 2024. Et qu'il réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il doit rembourser, souvenez-vous, une énorme somme, plus de 16 millions d'euros au Sporting dans le cadre du contrat qu'il a cassé pour rejoindre le LOSC et quitter le Sporting libre. Et il compte pas la payer, hein, Léao. Donc bon courage aussi pour négocier le futur salaire, la prime à la signature, parce qu'il veut que ça aide très largement à rembourser ce qu'il doit au Sporting.
Bon, peut-être aussi alors, s'il négocie une prolongation avec Milan, que le PSG est aussi là pour faire monter les enchères et obtenir une meilleure prolongation de contrat, d'une façon ou d'une autre. Hein, c'est possible aussi. Même s'il y a sans doute un intérêt de Campos, qui le connaît depuis longtemps, mais ça fait partie aussi du jeu des négos à ce moment-là, quand ça penche d'un côté ou de l'autre.
En tout cas, Jean-Louis, quand on entend de la bouche de Christophe Galtier, cet attaquant doit être une vraie valeur ajoutée, je penche plus du côté de Léao que de Rashford.
Ouais, dans ce cas-là, oui, t'as raison. Très bien, Johan, merci beaucoup.
Merci à vous, messieurs.
Bon alors, t'as toujours raison, Lionel, ça peut se discuter. Ça dépend des moments.
Bon, on est là pour ça.
Bah oui, c'est ça. Ah tiens, d'ailleurs, Lionel, Johan, t'es toujours là? T'as pas raccroché encore? Lionel avait des petites interrogations sur Fabian Ruiz et son utilisation. Comme Johan est là, il va pouvoir te confirmer tout
on
ça.
On m'a fait douter, mais j'étais sûr de moi, mais on m'a fait douter. Quand je lisais la presse française, j'ai dit, mais c'est pas possible, on parle pas du même joueur, parce que c'est un joueur extraordinaire, moi j'adore.
Et surtout, il fait
quoi le doute alors?
Aussi bien au milieu qu'un peu plus haut, c'est ça?
Ah, il est essentiellement utilisé dans un milieu à deux, pas vraiment plus haut. Hein.
À trois, il marche pas trop bien.
Le Napoli de Spalletti, c'est un 4-2-3-1. Ça a très rarement été un 4-3-3 ponctuellement sur certains matchs, mais c'est un 4-2-3-1 et il est toujours dans le double pivot. Et c'est jamais le plus défensif des deux milieux. Par contre, c'est plutôt un relayeur qu'une pointe basse ou qu'un joueur vraiment à mettre devant la défense.
Parce qu'on a entendu que ce serait peut-être le backup de Messi. Tu le vois pas aussi haut?
Ah bah en tout cas il l'a jamais fait à Naples.
Mais moi je le vois beaucoup plus créatif qu'un Verratti par exemple.
Mais après Fabian Ruiz, c'est pour moi c'est vraiment le prototype du relayeur qui se projette, qui doit être assez proche de la surface de réparation adverse pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a une excellente frappe de balle de l'extérieur de la surface. C'est un des joueurs qui marque le plus sur des frappes en dehors de la surface en Europe.
Ah, pour le coup, c'est un joueur qui a...
Ouais, et puis c'est un joueur qui est capable de se projeter aussi. Je me souviens du match contre la Lazio où sur une transition, le ballon revient à Insigne qui décale Fabien Ruiz à l'entrée de la surface, qui avait fait l'effort pour accompagner l'action et qui marque à la 94e minute. Donc il est tout à fait capable de faire ça. Après, ouais, jouer 10 ou jouer faux 9,
non, c'est peut-être un peu okay. Haut. Non. Mais par contre aussi, il y a une autre, je pense, il apporte une autre palette dans le jeu des milieux de terrain. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de jouer long, très long et très bien. C'est ce qui manque actuellement. Je trouve, aux couleurs du PSG, dans le jeu offensif du PSG, un peu de jeu long. Et lui, il le fait, mais à merveille, quoi. Plus 1m89. Ouais. C'est aussi très, très, très important. Parce que pour l'instant, les deux, ils font 1m20.
Oui, Vitinha et Verratti. Oui. Bah ouais. Et Renato Sanchez, c'est pas
très grand. Mais t'en as besoin de grands comme ça en Coupe d'Europe. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Johan, merci pour toutes ces infos.
À bientôt.
C'était parfait.
Ciao, Yo.
Arthur, merci également.
Et Jean-Louis.
rmcsport.fr pour toutes les infos mercato autour du PSG. Pour ne rien rater, allez sur notre site internet. Dans une seconde, la Coupe du Monde au Qatar. Est-ce qu'elle est trop différente selon vous des précédentes ou est-ce que finalement, ça fait partie des Coupes du Monde, d'aller dans des pays différents avec des cultures différentes et des façons de voir les choses différentes? C'est le débat dans une seconde puisqu'on est à 100 jours exactement du début de la Coupe du Monde. À tout de suite.
RMC, 18h20, Roten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
18h32, c'est Roten sans flamme avec Lionel Charbonnier ce soir. Vous nous écoutez peut-être pour la première fois sur RMC, soit parce que vous rentrez de la plage, vous êtes en vacances, ou vous rentrez d'une grande balade, une grande randonnée, ou bien parce que vous êtes dans les bouchons, parce que vous rentrez de vacances et il n'y a qu'à RMC qui capte. Et dans ce cas, je vous le dis, c'est comme ça toute l'année, c'est Roten sans flamme. Il y a Jérôme Roten aux commandes, il y a d'autres anciens joueurs qui sont autour de lui, comme Lionel Charbonnier qui est là pour débattre de l'actu foot et pour rire aussi, parfois, ça arrive, avec Julien Cazard. Julien est là tous les soirs à 18h45, il nous fait son Cazard enchaîné, son journal du foot version Cazard. Et tout au long de ce mois d'août, on vous propose les meilleurs moments, ce sera tout à l'heure à 18h45. Mais tout de suite, Lionel, place à la Coupe du Monde.
RMC, Roten sans flamme.
Faites entrer l'accusé.
Alors, dans exactement 100 jours, on sera en plein dans la fin du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. Il restera un quart d'heure, 20 minutes, ce sera tendu, peut-être que le Qatar sera en train de mener, le stade sera en fusion. Parce qu'aujourd'hui, c'est donc le J-100 de cette Coupe du Monde bien particulière, à l'image d'ailleurs de ce match d'ouverture. C'est quand même incroyable, la FIFA a annoncé hier que donc le match d'ouverture allait être avancé de 24 heures et donc la cérémonie d'ouverture également, tout ça à 3 mois de l'échéance, ça c'est du jamais vu parce qu'ils se sont rendus compte seulement maintenant que le Qatar jouerait pas en premier. C'est quand même un truc assez incroyable. Donc épisode sans doute anecdotique, surtout par rapport au reste. Mais donc ce soir, c'est cette Coupe du Monde au Qatar qui va être accusée d'être beaucoup trop différente des précédentes éditions, avec certains excès, et ce sur plein d'aspects, que ce soit le calendrier, l'organisation, la logistique, la construction des stades, et surtout la question des droits de l'homme dans ce pays. Alors Lionel, avant d'avoir ton avis, on accueille Nicolas Pelletier. Salut Nicolas.
Salut à tous.
Salut Nico.
Reporter RMC Sport, qui est allé plusieurs fois au Qatar pour enquêter, pour faire du reportage. Tu y étais encore début juillet. Alors dis-nous, qu'est-ce qui t'a frappé le plus lors de ton dernier passage? C'est les chantiers, les constructions qui sont encore nombreuses.
On y était début juillet, le 5 juillet, on y était pour un congrès de la FIFA. C'était un congrès où on parlait beaucoup pratique et donc c'était hyper intéressant d'y être parce que ça parlait aussi de l'aspect logistique pour les équipes, de l'aspect sécurité. Et donc en fait, quand on est arrivé à Doha, j'étais déjà allé à Doha au mois de mars dernier pour un long reportage pour BFM et pour RMC. Et donc on avait assisté à un pays en pleine mutation, mais on comprenait quand même, c'était à 9 mois du mondial, on pouvait se dire que les infrastructures n'étaient pas encore prêtes, c'était totalement logique. Mais là, on est retourné 4 mois plus tard, et en fait, les infrastructures ne sont pas totalement prêtes au Qatar. Alors, les 8 stades sont prêts, les 8 stades sont flambant neufs, les 8 stades sont parfaits, on les a visités, ils sont magnifiques et ils sont tous prêts. Mais c'est surtout autour de ces stades que les infrastructures ne sont pas prêtes. Par exemple, plein de routes secondaires qui mènent au stade, des autoroutes ne sont pas prêtes pour accéder à certains stades stades qu'on a pu visiter. C'est ça qui est un peu le plus frappant. Autre élément le plus frappant, c'est qu'au mois de mars, on s'était fait la réflexion qu'il y avait beaucoup de grues encore dans Doha. Il y en a toujours autant des grues dans Doha. Donc ça prouve aussi qu'il y a encore beaucoup de chantiers en construction. Mais du côté de l'organisation, on nous dit que tout sera prêt à la fin du mois de septembre ou début octobre.
Il y a une autre question en suspens, c'est celle des logements. Alors pas des joueurs et des équipes, hein, mais plutôt des spectateurs et des gens qui vont aller au Qatar pour assister à la Coupe du Monde. Il y avait ces histoires de navettes pour peut-être mettre des gens dans des hôtels dans des pays alentours. C'en est où cette histoire ?
Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que pour entrer au Qatar pendant le Mondial, le pays sera totalement fermé. On aura l'obligation d'avoir un billet valide ou une accréditation de l'organisateur. Donc ça, c'est un élément important. Et le Qatar qui a construit 130 000 places de logement dans son pays pour recevoir 1,2 million de supporters sur l'ensemble du mois, donc en lissant, va s'appuyer sur ses voisins, l'Arabie Saoudite, le Koweït, Dubaï, la Jordanie. En fait, le Qatar va mettre plus de 150 liaisons quotidiennes en avion chaque jour pour rapatrier, entre guillemets, les personnes sur le territoire qatari et pour qu'elles puissent assister à des matchs. Il y a des hôtels partout au Qatar, il y en a même dans le désert, il y aura des tentes luxueuses dans le désert. On a même fait un sujet sur RMC Sport avec une capsule qui sera posée sur l'eau, une capsule française qui sera posée sur l'eau, un hôtel à 800 euros la nuit. Mais il y aura aussi ces navettes avec les pays voisins et le Qatar compte beaucoup dessus pour loger les 130, les 1,2 million de supporters.
Comment ça va se passer, Nicolas ? C'est un coût supplémentaire pour le spectateur qui va vouloir s'offrir le billet ? Il va falloir qu'il se paye en plus l'avion ?
C'est totalement à la charge du supporter, c'est-à-dire que le supporter doit payer son avion entre Dubaï par exemple et le Qatar quand il va voir son match.
C'est pas milliardaire, tu peux voir une Coupe du Monde.
Alors il y a un élément où il faut nuancer, c'est que quand on fait une Coupe du Monde, et on a parlé avec plusieurs supporters, c'est quand on fait une Coupe du Monde dans un pays normal, quand on était en Russie, tu es obligé aussi de faire les liaisons entre les différentes villes où tu vas voir les matchs. Là, tout est dans la même ville.
Oui.
Donc c'est aussi tu peux compenser le prix avec ces liaisons là.
Oui, si tu veux. Ouais. Bon, alors en revanche, l'empreinte carbone de cette Coupe du Monde, là, ça va être une catastrophe. Hein.
Oui, après, les équipes ne bougeront pas aussi.
C'est vrai. Point important,
ouais,
exactement.
Il y aura de la clim dans les stades. Et les stades construits au milieu de nulle part aussi.
Dernier élément avec toi, il y a aussi peut-être un décalage sur lequel il faut insister entre les règles du pays, les règles de vie au Qatar et la réalité sur certaines questions des droits de l'homme. Par exemple, il y a quelque chose qui avait beaucoup fait parler, c'est la question du sexe hors mariage. Les rapports sexuels hors mariage, normalement, sont punis par la prison.
7 ans de prison au Qatar.
7 ans de prison, voilà. Là, a priori, bon, ce sera pas la réalité.
C'est une règle au Qatar, c'est 7 ans de prison.
Ah, ça sera la fête du slip, quoi.
Je pense pas, peut-être pas, mais on peut s'y approcher. C'est 7 ans de prison au Qatar, une relation sexuelle entre personnes non mariées. Et en fait, quand on a été sur place, c'était un article du Daily Star qui était sorti il y a quelques semaines, et on a été sur place. On a demandé beaucoup aux réceptionnistes parce que ce sont les premiers au fait de l'actualité et nous disaient en fait on va pas lever les couettes dans les chambres, on va pas les vérifier qui couche avec qui. Et en fait le Qatar veut devenir une puissance touristique après le Mondial et avoir des personnes en prison parce qu'elles ont couché avec une personne non mariée, ça ferait une très mauvaise image pour le Qatar à la suite du Mondial 2022.
Nicolas, est-ce que tu as entendu parler justement pour ces problèmes de logement que le Qatar ou peut-être les pays limitrophes ouvriraient des possibilités, parce que normalement tu peux pas recevoir des étrangers comme ça chez toi.
Je peux te dire que, par exemple, on a beaucoup discuté avec des expatriés français. J'ai beaucoup de contacts avec les reportages avec des expatriés français. Par exemple, le Qatar leur a proposé 3 mois de loyer pour que eux partent en deux mois de loyer pour que eux partent en vacances pendant le mois de la Coupe du Monde, et eux, ils leur donnaient 2 mois de loyer, le gouvernement qatari. Et donc, ils laissaient leur logement libre pour les supporters, pour accueillir les supporters pendant la compétition.
Ce qui pourrait revenir moins cher.
Ce qui est très intéressant, quelqu'un qui a une habitation sur Doha. Mais après, la plupart veulent aussi vivre cette Coupe du Monde à Doha.
Alors, Lionel, qu'est-ce que tu penses, toi, globalement, de cette Coupe du Monde? Est-ce que, selon toi, une fois que les matchs vont commencer, on ne pensera qu'au foot et à rien d'autre? Ou est-ce qu'il y aura quand même toujours cette espèce de petite musique, d'épée de Damoclès au-dessus de cette Coupe du Monde?
Je pense que, de toute façon, ce mondial ne plaît pratiquement à personne, sûrement à celui qui l'organise. Et donc, inévitablement, on va aller chercher la petite bête, on va aller chercher le truc, on va essayer de dénigrer ce mondial. J'en suis persuadé, on va faire qu'en parler. Il peut y avoir des problèmes d'organisation et tout ça. En tout cas, ça sera pointé du doigt. J'espère que tout va bien se passer, mais je suis persuadé que dès que le mondial va commencer, on ne fera pas que parler football. Oui, j'en mets ma main.
Moi, c'est sûr. Oui, Nico.
Non, je suis d'accord avec Lionel parce que quand il y a beaucoup de médias qui vont sur place pour faire des reportages, mais quand il va avoir tous les médias au même endroit, on va évidemment relever la petite bête à chaque fois.
On sera là quand même pour tenter d'enquêter, puisque RMC sera sur place au Qatar, comme à chaque grande compétition, pour justement se rendre compte des choses, de l'atmosphère, de l'ambiance d'un pays pendant la Coupe du Monde. Ce sera donc dans... Bah alors, c'est plus dans 100 jours, c'est dans 99 jours.
Et on l'a avancé. Hier on était à 100 jours, et maintenant on est à 100 jours, et maintenant 99.
Je ne rends pas compte notre organisation, Lionel, on est tout prévu pour demain et tout. Là,
exactement.
Et finalement, on a tout avancer en 24 heures. Heureusement qu'on sait s'adapter. Hein. On
c'est
est comme ça.
Nous,
hein. Et voilà, c'est ça. Évidemment, RMC, donc je vous le disais, sera sur place. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Merci Nicolas Pelletier.
Merci à vous.
Et dans une seconde, on se détend. Julien Cazard, son Cazard enchaîné. À tout de suite.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Jean-Louis Tour.
Il est 18h44, vous êtes dans Rotten sans flamme du mois d'août avec Lionel Charbonnier. On est vendredi, il y a Ligue 1 ce week-end. Donc dans Rotten sans flamme, le vendredi à 19h, c'est le multiplex. On le fera donc pour cette deuxième journée de Ligue 1. On sera à Marseille, on sera à Nice, on sera à Lens, on sera à Nantes également. C'est le match du soir d'ailleurs entre Nantes et Lille. Avec tous nos correspondants, leurs infos, les rumeurs mercato. Et puis invité à 19h30, Brendan Chardonnay, le capitaine de Brest, sera avec nous. Mais comme tous les soirs, depuis le début de la saison, avant 19h, c'est le moment de Julien Cazard.
RMC, Rotten sans flamme.
Le Cazard enchaîné.
Toute une époque, c'était le club de vacances qui a été inventé, plein d'activités, c'était révolutionnaire et c'était génial. On te proposait tout ce que tu voulais, mais t'étais pas obligé. Et vous vous souvenez de cette pub avec la voix de Thierry Lhermitte, la pub pour le Club Med, Le Bonheur si je veux, vous vous souvenez pas?
Ah oui, oui.
Alors on se la réécoute, souvenez-vous.
C'est gentil, mais j'ai un tennis. Une seconde, j'enfile mes bottes. Non merci, je sors de table. Par devant, j'arrive.
Alors, moi, alors, attendez, c'était le bonheur si je veux, c'était génial, c'était. Alors, sauf que des Club Med, il y en a dans le monde entier, et c'est celui qui marche le mieux. C'est un club qui a été créé il y a 10 ans, un nouveau Club Med. Il a été créé à Paris. On a la pub, je crois. Elle est là.
Ney, tu viens, il y a des crassages.
C'est gentil, mais j'ai un tennis.
Ney, on fait un taureau sur le petit terrain.
Une seconde, j'enfile mes bottes.
Ney, il y a muscu.
Non merci, je sors de table.
Ney, je crois que c'est l'heure d'aller faire un footing en forêt.
Par devant, j'arrive.
Tu peux lâcher le poker.
Oui, mais non.
Club de merde, l'exigence, si je veux.
C'est incroyable.
C'est le Club Med. Et c'est aussi l'anniversaire d'un ancien Lyonnais qu'on finit par regretter, c'est Bakary Koné. Allez.
Koné, 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 Bakary. Koné, 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 Bakary Koné.
Je voulais juste rendre un petit hommage en musique. Allez, sommaire.
Mais Bakary Koné, le Niçois.
Non, le Lyonnais. J'ai fait une chanson sur Steven Langille. Je peux faire la carré.
Steven Langille.
Langille. Nous, j'étais au bout de ma vie. Nous aborderons bien entendu l'événement de cette semaine, la Coupe d'Europe, la seule évidemment, l'unique. Jérôme, la C4. Et oui, 24 heures avant le choc de cette semaine européenne, l'OM se prépare à vivre un gros duel avec une grosse intensité à Rotterdam. D'ailleurs, les Marseillais ont pris l'avion ce matin en direction des Pays-Bas. Ah bah attendez, je crois qu'M6 a envoyé la bande-annonce du départ des Marseillais pour Rotterdam.
Ce matin, sous le soleil de Provence, l'héros de tout un peuple s'apprête à s'envoler à travers les cieux, à travers les âges. Le tarmac en fusion. À l'arrivée des princes phocéens, aérogare 5, porte 2, rang de gauche, place 12B à 35D. Under, un thé à la menthe, paillettes, mini coca, mandanda, des sucrètes. On se regarde, on se comprend. PNC aux portes, on va décoller, on range les tablettes, le téléportable. Et à nous Rotterdam. Rotterdam, deuxième plus grand porte Europe derrière Marseille. Tremble Feyenoord, tremble M6, tremble Europe. Marseille est du retour. Et Steve a repris nos secrets.
Oh putain, ça fait peur! Ça fait peur! Oh, j'ai envie d'y être! Oh, là, là.
Le Cazard enchaîné.
On a une pensée pour ceux hier soir qui ont cru
jusqu'à la dernière minute et qui finalement, comme les autres fois, ont fini par l'avoir dans l'os et qui disent « Ah, on n'y arrivera jamais, Jean-Luc !» Rassurez-vous les gars, vous n'êtes pas seuls, il y a les supporters du PSG qui vous comprennent mieux que personne. Il n'y a pas plus compréhensif. Un mec du PSG qui rencontre un mec de Mélenchon, ils se comprennent. Ils se regardent dans les yeux, « On était à ça ! On était à ça jusqu'au bout !» Je crois
qu'il y en a... Qu'est-ce qui se passe quand c'est la même personne ?
Qu'il y a les deux.
Oui.
Alors ben là c'est compliqué parce que si t'es pour Jean-Luc Mélenchon et qu'en plus t'es pour le Qatar à vivre. Ouais. Après on n'est plus à ça près. Jean-Luc Mélenchon. Ah, on a un électeur de Jean-Luc Mélenchon qui a réjoui au dernier résultat officiel.
C'est pas possible. Ouais.
On a une pensée aussi pour l'équipe d'Éric Zemmour. Zemmour qui pensait qu'en prenant tous les meilleurs éléments de son adversaire, en l'asséchant jusqu'à lui prendre un membre de sa famille, en créant une dream team autour de lui, il allait gagner. Eh ben non! L'autre, hein, tu l'as asséché, t'as battu! Mais qu'il se rassure, il n'est pas seul, car les supporters du PSG aussi peuvent les comprendre mieux que personne, les gens qui ont voté pour Zemmour. Là, tu vas me dire, mais les mecs qui ont voté pour Zemmour et qui sont pour le PSG. Mmh. Bon, là, ça devient compliqué. Ah, je crois qu'on a une réaction des militants d'Éric Zemmour.
C'est pas possible!
Il y a en revanche une différence entre le PSG et Zemmour, que c'est Zemmour, lui, il est en reconquête. Alors que PSG, il a rien conquis. Il a rien à reconquérir. C'est la bonne nouvelle. Une pensée pour Fabien Roussel. Je sais que tu l'aimes beaucoup, toi, Jean-Louis.
Oui.
Comme tout journaliste, progressiste de gauche. Tu te dis qu'il est frais. Il ramène un vent frais. Mais tu votes pas pour. Mais tu votes pas pour. Une pensée pour Fabien Roussel qui pensait qu'il suffisait de penser aux jours heureux et qu'on gagnait avec le bon vin et la bonne bouffe. Eh ben, il avait qu'à demander à Neymar et à Verratti. Ça marche pas! Ça marche pas, mon pauvre ami! Ah, je crois qu'on a une réaction d'un militant de Fabien Roussel.
La maison, parti. Ah ouais. La maison, ça va bientôt. Ah, bonjour. Aïe, aïe, aïe.
Merde, il est encore bourré.
J'ai parlé français.
Ouais, ouais. Allez, c'est dur. Je sais que c'est dur pour tous les gens qui ont la gueule de bois ce matin et qui ont voté pour Fabien. On rappelle à tous ceux qui veulent garder quand même, on va parler football quand même, c'est important, à tous ceux qui veulent garder Mbappé, Paqueta, Goury, Borijo, Jonathan David, Guendouzi, Hakimi, Verratti, Milik, Laporte, Tchouaméni en Ligue 1, qu'une seule personne a proposé pas d'impôt pour les moins de 30 ans. Je le rappelle, il n'y a qu'une candidate qui propose zéro impôt pour qu'on puisse garder les stars de la Ligue 1 et aucune pour que les Ligands votent utile.
Opération élection présidentielle, plus que 15 jours avant le deuxième tour. RMC, Qatar Airways, Chanel, Louis Vuitton, Jean-Louis Tour, Julien Cazard et Pierre Dorian se mobilisent pour faire élire Marine Le Pen comme présidente de la République. Pour une Ligue 1 florissante, Marine présidente.
C'est pas foutu, Jean-Louis. On peut encore y aller. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis ?
Rien, t'es mais bon.
Mais putain, mais soutiens-nous ! Tu vois pas qu'il s'en va, Kylian ? C'est la seule raison pour laquelle il peut rester.
Mais
on
non,
peut payer son salaire. Ouais. On peut payer... Oh, ouais, t'imagines, plus de fair play financier, plus d'impôts. Mais on peut s'en acheter, on peut même acheter à Land.
Non, mais ça, le PSG, ils sont capables de payer.
Arrête, ouais, Jean-Luc, tu penses pour Bourigeau. Mais oui, et Paqueta, comment et on Bourigeau, le garde? Et comment on fait entendu. Comment on fait pour les garder, Guendouzi, tout ça? Ils vont partir, Milik. Hein? Qu'est-ce que tu veux, toi? Ils liguent avec des Liénard, des Montconduit, des Colossiéjac, des Vincent Pajot, des Ismaël Traoré. Mais vote Macron! Mais vas-y! Puis si ça te fait rêver!
Je sais, toi, Jean-Louis, en bon progressiste, il va préférer voter pour la Ligue 1 Montconduit que celle de Mbappé.
C'est ça ton ambition pour la France?
Mais vas-y.
Macron, Jean-Louis. Mais après, viens pas chialer dans mes bras parce qu'on joue la Ligue par conférence avec Edouard Michu et Riyad Boudbouz qu'on aura obtenu en prêt à l'arrache et qu'on pourra même pas garder en fin de saison quand il marque deux buts. C'est ça que tu veux, Jean-Louis. C'est cette Ligue 1 que tu veux. Eh ben, vas-y, vote. Et hier, dans l'after, ça faisait du bien, une atmosphère de joie, de printemps, de soleil dans les cœurs, notamment dans le débrief du match de Lyon.
Il n'y a rien qui va à l'OL.
Et qu'est-ce que tu le manges en salade, le centre de formation?
Non,
les supporters lyonnais, qu'est-ce qu'ils en ont à cirer de ça? Bah, ils vont tous regarder la Gambardella avec la barquette de frites merguez. Hein. Mais quelle péripétie!
Mais toutes les péripéties!
Il y a des choix, c'est pas des péripéties. D'accord. C'est des choix qui sont faits par le président.
Ils seront une salade de regret, une salade de jeunes.
Mauvais choix.
Le président, il s'en aille.
Mais oui, il est complètement free.
Antisocial, tu perds ton sang en froid.
Ça, c'était la bonne humeur de Daniel. Ouais. Alors, en même temps, c'est normal, Lyon. Ils ont fait match nul. C'est minable. Heureusement, on a respiré après. On a parlé du PSG. Triplé d'Mbappé.
Oui.
Triplé
et là, de
Neymar. Là, ça régale. Fais-nous plaisir, Daniel.
Le PSG, c'est pire. Ils ont lobotomisé les supporters. Oui. Qui sont contents quand tu mets 6 à Clermont. Il va changer un journaliste. Neymar, il en est là. Le club, il est en train de couler tellement ils sont bêtes.
Oui.
C'est bien pire que Lyon.
Non, mais je. Je sais pas ce qui s'est passé, Daniel. Je sais pas pour qui il a voté. Je sais pas comment il l'a vécu. Le faible score de Fabien Roussel, sûrement, qui l'a perturbé. On sait que Daniel est très proche du candidat de la France des Jours Heureux. Il encaisse le coup. Allez, Daniel, on est avec toi.
Le casar enchaîné.
Nous reviendrons, bien entendu, sur l'événement d'hier soir, la défaite du PSG face au Real, une victoire madrilène pleine de détermination. Et c'était évidemment la fête hier dans les rues de Madrid.
Oh, c'est bon. On a le cul, les Parisiennes, on a le cul.
Ah, bah non, bon, ah non, c'était pas. Ah, c'était, ah non, on me dit que c'est au Vieux-Port à Marseille. Pardon, excusez-moi. Ah oui, non, mais cette défaite, pour la plupart des observateurs, ouais, totalement incompréhensible et irrationnelle. Certains y voient un signe du destin. Pourtant, le PSG serait maudit pour certains à cause du karma des Qataris. Mais la malédiction existait déjà avant eux. Donc, peut-être que le PSG, le Parc des Princes, aurait été construit sur un cimetière indien, peut-être. Mais la réponse est ailleurs. La réponse, elle se trouve à RMC. Oui.
Ah bon?
Un homme, un porteur de poisse venant de la région PACA, œuvre en coulisses pour guigner le PSG.
C'est l'instant chat noir de Roland Courbis.
J'espère que demain, le sujet de conversation, ce ne soit pas une bourde de Donnarumma.
C'était l'instant chat noir de Roland Courbis.
Bravo!
C'est incroyable!
Bravo!
Incroyable, Roland. Alors, il a guigné Donnarumma.
Mais c'est, il l'avait vraiment dit avant.
Parce qu'il avait dit avant. Il a dit avant match. Et avant match, il a pas, j'espère qu'il n'a pas parlé du fait qu'il y aurait peut-être un problème lié à l'arbitrage.
C'est l'instant chat noir de Roland Courbis.
Ce qui me ferait peur, moi, si j'étais le Paris Saint-Germain, c'est tout simplement l'arbitrage.
Depuis 60 ans, je pense que les coups de sifflet du côté du Real ne sont pas les mêmes qu'ailleurs.
C'était l'instant chat noir de Roland Courbis.
Incroyable. Mais il est trop fort, Roland.
S'il pouvait arrêter de parler,
il est un peu chat noir, mais voilà, il voit tout avant les autres.
C'est sa faute!
Le Casar enchaîné.
Julien Casar qui sera de retour en direct le 22 août avec la reprise de Jérôme dans Rotten sans flamme. Et d'ici là, on vous propose les meilleurs moments de ces différents Casars enchaînés. La deuxième heure de Rotten sans flamme arrive dans une seconde, toujours avec Lionel Charbonnier. On va lancer la deuxième journée de Ligue 1. Des infos sur Bamba Dieng. L'OM gère-t-il mal ce cas? 32-16 si vous voulez participer au débat. On va parler du mercato lensois, de l'attaque de Nice, mais également d'une situation déjà d'urgence à Nantes. On vous raconte tout ça en deuxième heure. On sera aussi avec Brendan Chardonnay, le capitaine de Brest. Et puis on jouera, il y aura le quiz évidemment, juste avant 20h. A tout de suite pour la deuxième heure de Rotten sans flamme.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.